Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Rien n'est grave, c'est ça que je veux dire. Rien n'est grave. Tomber, ça fait partie de la vie. Et même, il faut tomber. Je le dis dans une chronique, j'ai dit, la vie, ça brûle. Et si ça brûle pas, c'est que tu vis pas. Et je le pense très sincèrement. Donc en fait, on ne vit qu'une fois. Il faut arrêter de penser que, bon, le paradis, la réincarnation, machin, c'est très joli. Mais on ne vit qu'une fois. Partons de ce principe-là. Parce que si ce n'est pas le cas, on sera niqué. Donc on ne vit qu'une fois. Alors profitez de cette expérience assez incroyable, qui est bouleversante, qui fait mal, qui brûle, qui est à la fois réjouissant, qui est doux, qui est tendre. Profiter de ça et bouffer le monde, quoi. Il faut bouffer le monde. C'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est de bouffer le monde, quoi. Voyager, rencontrer, aimer, beaucoup, fort, trop, trompez-vous, souvent, le plus possible, et essayez d'apprendre.
Dans l'épisode de la semaine dernière, avec Benjamin Carboni, on parlait de Félix Radu et de mon rêve de le recevoir sur Nouvel Œil. 3 jours après, Félix m'a répondu. Et 5 jours après, je lui donnais le micro. C'est finalement peut-être ça, le pouvoir de l'intention et la magie de la vie. Félix a ce don pour piquer et pincer aux bons endroits. Il conjugue les mots, les déplace et les retourne jusqu'à ce qu'ils prennent des tournures qui percent et qui poignent. Il vulgarise la littérature, la philosophie et l'absurde avec de l'humour, du théâtre, des chroniques et des spectacles. Il aime les éclats, l'amour, les rires, les rimes et la vie qui bouscule. On l'appelle le petit prince des temps modernes, c'est un fou de vie, un fou de rêve et un fou de tout. Sinon, vous pouvez aussi aller le voir, il fait des spectacles sur les mots qui s'improsent. Alors cet épisode m'a émue, Félix m'a touchée, m'a donné envie de pleurer 3 fois et de tomber amoureuse à chaque question. Tu vois, moi aussi je sais faire des lettres ouvertes, Félix. Là, par exemple, je te demande que l'on parte faire ensemble ce fameux tour du monde. Eh bien, écoute, salut Félix.
Bonjour.
Enchantée, je suis ravie de t'avoir là en face de moi.
Moi, pareil.
Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter,
je le savais.
Poétiquement, d'une manière...
Ouais.
Pas te présenter, je suis Félix, je fais des chroniques, voilà. Un Félix, toi, quel Félix tu es? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu pourrais te définir?
Comment je pourrais me définir? Je pourrais me définir... J'ai la sensation d'avoir 17 ans depuis un paquet d'années, là, maintenant. Donc, je veux dire que je suis juste un gosse qui a grandi et qui fait de son mieux. Je me rappelle d'une phrase, moi, d'Alfred... On commence déjà avec la citation, super.
Tu vas nous perdre les auditeurs, même pas une minute.
Directement. Alfred de Musset, l'enfer. Mais non, Alfred de Musset, dans Les Confessions d'un enfant du siècle, à un moment, il en veut énormément aux auteurs qu'il a lus, parce qu'ils lui ont donné une vision tronquée de la vie et du romantisme. Et il dit, tout ça n'existe pas, il en veut énormément. Et il dit, au grand poète, pardonnez-moi, vous êtes des demi-dieux et moi je ne suis qu'un enfant qui souffre. Et il s'excuse du coup de rater tout ce qu'il entreprend. Alors que pour moi, Alfred de Musset, c'est un demi-dieu. Genre, c'est un homme qui a écrit des pièces incroyables et qui a écrit une œuvre littéraire qui me dépasse. Et aujourd'hui, c'est nous, les enfants qui souffrons. Donc, j'aime beaucoup cette formulation de dire pardon, je ne suis qu'un enfant qui souffre. Je fais de mon mieux avec les choses qui me bousculent et me heurtent. Et je ne fais que ça. Je suis quelqu'un qui rate énormément de trucs. Portrait poétique. Et Jacques Brel disait que les artistes racontaient ce qu'ils ratent. Les sculpteurs certainement la beauté, les poètes certainement l'amour. Et moi, comme je rate énormément de choses, bah, j'ai décidé de faire de mon métier le fait de raconter des histoires.
Qu'est-ce que tu as raté de gros?
Qu'est-ce que je rate de gros? Je rate la vie. C'est ce qu'il y a de plus gros. Je rate énormément de choses. Je suis beaucoup trop dans ma tête. J'ai pas toujours l'impression de comprendre les gens que j'ai en face. Quand je veux bien faire, je fais souvent très mal. Le monde est trop complexe. Le monde est trop nuancé. Et en recherche de clarté, en fait, je pense qu'on passe une vie à comprendre. Et puis c'est trop tard. D'ailleurs, c'est encore une phrase de Louis. Non, c'est pas de Louis Aragon. Si, c'est de Louis Aragon. Je sais plus. C'est il n'y a pas d'amour heureux. Et dedans, il dit le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Je trouve ça joli. Voilà.
Et t'as
c'est triste comme portrait.
T'as l'impression de vivre dans tes pensées, en fait.
Ouais, mais je pense que tout le monde vit un peu dans ses pensées. Soit on décide de savoir qu'on est dans nos pensées intérieures, qu'on est dans notre tête, ou soit on projette. Et donc on a la sensation qu'on est avec le monde extérieur, alors qu'en fait on vit que dans des projections, dans ce qu'on interprète. Moi j'ai bien conscience que genre le monde m'échappe, et donc je suis souvent dans ma tête à... Je prends, je fais ok, attends, j'ai besoin de comprendre, et donc je m'enferme chez moi avec mon bloc et j'essaie de démêler les pelotes, que ce soit mon amoureuse quand j'en ai une, mes amis quand j'en ai, j'essaie de comprendre, voilà.
Et est-ce que justement cette manie de démêler tout ce qui t'arrive, c'est pas ta manière à toi d'être vivant et de réussir ta vie à ta manière?
Oui, certainement. Je sais pas. C'est ma manière d'être en vie. Oui, certainement.
On va parler du Félix petit. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton enfance? Comment tu te sentais quand tu étais petit? Qu'est-ce qui te passionnait? Et à quoi ressemblaient tes journées, finalement? Est-ce que tu étais déjà dans tes pensées, dans tes livres, dans tes écritures?
J'avais pas encore d'écriture, j'avais pas encore les livres, je les avais pas encore rencontrés. C'est très bizarre parce que quand j'étais petit, j'avais la sensation d'être à l'étroit et en même temps dans un monde beaucoup trop grand pour moi. C'est très bizarre d'être à l'étroit dans un monde trop grand. Et... j'étais pas très bien. Je pense que je m'aimais pas beaucoup. Je pense que si je me croisais dans la rue aujourd'hui, j'aimerais pas bien le gosse que j'étais. J'ai mis beaucoup de temps à accepter d'être qui j'étais, puis faire avec moi, quoi. J'étais très seul. J'avais du mal à communiquer avec mes parents. J'avais du mal à communiquer avec mes petites sœurs, même si je voulais les défendre énormément. J'ai mis du temps à rencontrer des gens parce que j'étais dans une école, du coup, comme on se l'a dit tout à l'heure, j'étais à la campagne. Je vis dans une école très serrée, catholique. Et je correspondais pas à ces cases-là, parce que j'étais très distrait, j'aimais bien mes petits cahiers, et donc les professeurs parfois me prenaient mes cahiers pour se moquer de moi en salle de prof, parce que c'était pas de la grande poésie, fait qu'ils avaient raison. Et les enfants, pareil, y a rien de plus coupable, y a rien de plus cruel qu'un enfant. Et j'ai pris tarif pendant des années, quoi. Et puis derrière, quand j'ai grandi, en fait, j'ai réalisé que la plupart des défauts qu'on a enfant, ce sont nos plus belles qualités quand on est adulte, en fait. Il faut prendre soin de toutes ces fragilités, de toutes ces... Et voilà. Donc maintenant que j'ai grandi, je me suis réconcilié avec le gosse que j'étais. Donc si je devais te le décrire, je dirais c'est un grand mec qui a l'air tout maladroit, alors c'est juste parce qu'il a grandi trop vite et qui est trop sensible. Du coup, genre il chiale tout le temps ou il hurle tout le temps ou il rate beaucoup tout le temps. Ça te va comme réponse, c'est bon?
Ouais, oui, nickel. Et comment tu percevais la vie quand tu étais petit?
Ah ouais, t'as des questions sévères. Comment tu percevais la vie? Comment je percevais la vie? J'ai grandi dans une sorte d'idéalisme. C'était très important pour moi qu'il y ait les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et j'espérais être du côté des gentils. Donc j'ai toujours tout fait de manière à me sentir du côté des gentils. Et ça a été un des grands drames de ma vie, c'est de grandir et de réaliser qu'en fait, il y avait ni gentil ni méchant. Que tout le monde avait une part d'ombre, tout le monde avait une part de lumière, et que souvent, les situations où il semble qu'il y ait des méchants, il y a des nuances, il y a des faits qui font qu'ils ont fait le meilleur choix pour eux. Et c'est un des grands deuils de ma vie. Je dirais qu'à ce moment-là, j'étais un gentil, comment est-ce qu'on appelle ça? Utopiste, mais genre convaincu, quoi. Je voulais que ce soit le bien qui triomphe, par tous les moyens. Puis aujourd'hui, je me rends compte que le bien a d'autres dimensions, quoi, mais...
Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ce Félix petit?
Oh, j'ai fait une lettre. j'ai fait une chronique déjà là-dessus. J'ai fait une chronique là-dessus. Allô? C'est lui qui m'appelle. Non, j'ai fait une chronique là-dessus, mais qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Je lui dirais de pas lâcher, parce qu'il y a eu des moments où genre j'ai pleuré alors que c'était pas spécialement nécessaire. Enfin, je lui dirais genre, tu vas prendre tarif, ça va être compliqué, il y aura des jours sans, mais ça vaut la peine, quoi. Donne-toi du mal. Et puis, tu vas pas écrire que des choses débiles. Même si tu crois pas, il faut continuer d'écrire. Et puis je lui dirais de lire énormément, parce qu'il y a des gens formidables qui ont laissé des bouquins derrière eux qui sont terribles. et qui font du bien. Et moi, elles m'ont fait beaucoup de bien, ces bouquins. Donc, j'irai lire. Ça va apprendre un tas de trucs, quoi. Puis écouter de la musique aussi. Bah, j'ai fait une chronique là-dessus. Enfin, je vais me répéter, quoi, mais... Si jamais vous êtes curieux, écoute.
Je la mettrai dans les notes.
Allez voir les références.
Bois ton thé.
Oui.
Alors, elle remonte à quand, cette passion pour les mots? T'en as marre de mes questions?
Non, mais pas du tout. Je trouve ça trop cool, mais c'est large.
C'est large, hein? Ouais.
Ouais. Mais c'est trop cool, en vrai. Ouais. C'est mieux ça que, genre, parlez-nous de votre parcours.
C'est ça. Non, mais... Puis je sais que tu as beaucoup d'imagination, alors des questions ouvertes, c'est mieux.
Oh, tu sais, l'imagination. Attends, c'est quoi la question, tu m'as dit?
À quand...
Là où elle est aussi. Ok.
À quand elle remonte cette passion pour les mots?
Je sais pas, j'ai toujours écrit un peu. Quand je me sentais pas bien, j'écrivais des trucs, mais c'était pas bien. Hein. J'étais petit, c'était des poèmes nuls. Enfin, quand j'étais très amoureux de filles, j'écrivais des poèmes que je laissais dans leur casier. C'était pas bien, quoi. Mais c'était naïf. Mais j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui, elle, écrivait déjà pour son passe-temps, quoi. Et qui a pris soin de ça. Donc, quand j'écrivais quelque chose de pas très bien, elle me faisait genre que c'était bien. Elle me disait, mais c'est super, continue. Puis elle m'a dit, vas-y, tu vas voir, c'est super d'écrire. Et en fait, au fur et à mesure, je suis devenu l'auteur du groupe. Enfin, et c'est devenu une vraie passion, puis c'est devenu un vrai métier, puis en fait j'ai toujours écrit. C'est juste ça, ça s'est fait tout naturellement. J'écrivais un peu, puis de fil en aiguille mes connaissances ont fait, ah ouais, t'écris toi? Ouais ouais, j'écris. Et puis en fait, du coup, j'écris. C'est Marguerite Duras qui dit écrire c'est se demander ce qu'on écrirait si on écrivait. Bah, je fais ça tout le temps, en fait. Je fais comme si j'étais auteur, et du coup ça fait de moi un auteur. Je fais, ok, qu'est-ce que j'écrirais si j'étais auteur? Et du coup j'écris. Putain, on a déjà cité 6 personnes.
Ouais.
En 3 questions. Je trouve ça très...
très riche.
Non, je pense qu'en plus, il y a une autre phrase encore qui dit qu'on cite quand on n'a rien à dire. Du coup, ça m'insulte terriblement, mais... parce que je passe ma vie à citer des trucs. Mais on va faire comme si j'avais plein de choses à raconter.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as terminé de lire ton premier livre ?
Mon premier livre, moi je m'en rappelle pas mon premier livre, je m'en rappelle pas de mon premier bouquin, même je pense que j'ai détesté au début lire, j'aimais pas lire quand j'étais petit. Quand j'étais tout petit, quand on me forçait à lire, je me rappelle même, on m'avait forcé à lire Le Petit Prince, qui est un de mes livres préférés, et je me rappelle l'avoir détesté, j'en ai rien à foutre de ce renard qui venait faire chier ce petit gosse dans le désert, vraiment, et j'aimais pas ça quoi, et j'aimais pas qu'on me force, et d'ailleurs je pense que c'est là où l'école fait une erreur, c'est qu'elle force ses enfants à lire des livres qui d'abord ne leur correspondent pas forcément, puis qui sont pas forcément aux bonnes tranches d'âge. Et je pense que tout le monde peut être bousculé par un tas de types de littérature différentes, donc il faut pas forcer, il faut laisser les gens venir à la littérature. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres matières. À la place d'expliquer les réponses d'expériences scientifiques, poser les problèmes et puis proposer aux enfants de savoir comment est-ce qu'on pourrait le régler, et faites les expériences avec eux. Je pense qu'il y a rien de plus amusant que de faire une expérience scientifique. Donc c'est pareil que pour la littérature. Donc mon premier livre, je ne l'ai pas aimé. Mais j'ai eu de la chance, c'est que je me suis obstiné et j'ai rencontré très vite des auteurs qui m'ont bousculé. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé la force que pouvait avoir un livre et à quel point on pouvait se lier d'amitié avec quelqu'un qui n'est pas là. À quel point on peut aimer une personne qu'on n'a jamais rencontrée. J'aime profondément Alfred de Musset, j'aime profondément Victor Hugo, j'aime profondément Tchekhov. Ce sont des jeunes gens à 20 ans que j'aurais aimé rencontrer, fumer un joint, boire une bière, parler d'amour, de meuf, tout. Voilà. C'est chouette.
Avec toutes ces lectures et toutes ces réflexions que tu as, aujourd'hui, comment tu pourrais décrire la vie? Qu'est-ce que c'est la vie pour toi?
Qu'est-ce que c'est la vie? J'ai un vrai travers, hein, j'ai pas le Covid-19. Qu'est-ce que la vie? Je dirais que la vie, c'est un sacré beau bordel. On a tendance à très vite vouloir se réfugier dans des réponses. Qu'est-ce que la vie? C'est rassurant de se dire, bah, la vie, c'est ça. Et je pense qu'en fait, tout le principe et toute la difficulté, c'est de réaliser qu'il n'y a pas forcément de réponse et qu'on ne le sait pas encore et que c'est pas grave. C'est bien le vide aussi. La vie, c'est le vide pour le, enfin, on sait pas trop pourquoi on est là. D'ailleurs, il y a même peut-être pas de raison pour laquelle on est là. C'est juste, il y a un non-sens. Et c'est tout le principe du livre de Albert Camus dans Le Mythe de Sisyphe. C'est-à-dire que la vie est un non-sens. Et c'est pas grave. Faut faire avec, même faut faire sans. Et donc je dirais que la vie, bah, on est là par hasard. Je dirais qu'on fait des choses qui n'ont aucune importance, dans le sens où dans 200 ans, on sera tous oubliés. Et dans 1000 ans, on sera plus là. Donc je dirais qu'on fait de notre mieux. Je pense que c'est la chose que j'aime le plus, c'est de faire de son mieux. Faut pas être le meilleur, faut faire de son mieux. Et j'aime ça, moi, me dire que la vie, en fait, ce sont juste des gens qui sont bousculés par des choses qui les dépassent et qui font de leur mieux avec toutes les flèches qu'ils te prennent dans la gueule tous les jours. Voilà. C'est ça, la vie. Faire de son mieux.
T'as l'impression de faire de ton mieux?
Je fais de mon mieux.
Yes, fabuleux.
Je fais de mon mieux.
On va parler un petit peu de ton parcours, quand même. Comment tout s'est accéléré pour toi?
Comment tout s'est accéléré... Le regard. Comment tout s'est accéléré? En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, je pensais que la vie allait être une douce accélération au fur et à mesure, tu vois, genre, on allait trouver un rythme de croisière, et puis ça allait monter, 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 monter. Mais en fait, non, il y a des énormes accélérations, puis des silences. Puis des énormes accélérations, puis des silences. Et la vie, c'est que ça. Et depuis que je fais du théâtre, depuis que j'écris, il y a eu des moments où je me suis dit, ok, ça y est, ça marche. Et puis en fait, non. Tu repars pour 2 ans où t'es tout seul à faire tes trucs, et puis boum, ça y est, ça marche. Et donc, à quel moment s'accélérer dernièrement, c'est par les chroniques, du coup, c'est de ça qu'on se rend compte d'ailleurs, c'est oui. Pour ça qu'on se rend compte. Les chroniques ont vraiment bien marché. Auparavant, c'est quand j'ai commencé à faire mon seul en scène à Paris. J'ai rencontré une boîte de production qui est très grosse, qui s'appelle Robin Productions, qui a produit Kaamelott, Caméra Café, Kev Adams, etc. Ce sont une grosse machine qui est très sympa. Et je me suis dit, ok, ça y est, ça a marché. Puis en fait, non, il faut du temps, quoi. Et pareil pour les chroniques. Donc, y a plein de moments d'accélération. Ce serait très long à raconter. Mais ce qu'il faut, c'est rester accroché au truc et y croire.
Qu'est-ce que tu penses des rencontres? Est-ce que tu crois que des gens nous tendent la main dans des moments inattendus et nous ouvrent des portes imprévisibles? Quelles ont été ces rencontres pour toi qui ont un petit peu tout chamboulé?
Vous savez, moi, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises.
Si tu veux.
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.
Je suis pour la rencontre, bien sûr. Enfin, qui est contre la rencontre? Après, je pense que les gens confondent la solitude et l'isolement. Oui, il y a des gens qui... je pense qu'on confond la solitude et l'isolement. Et il faut énormément rencontrer les gens, mais c'est pas parce que tu rencontres les gens que tu peux pas te sentir terriblement seul auprès d'eux. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est que je me sens, la plupart du temps, je me sens le plus seul devant le plus grand nombre. Et donc, il faut foncer rencontrer les autres, parce que c'est en rencontrant les solitudes que éclatent des éclats, du coup, des éclats de réponses, de questions, de lumière. Et c'est auprès de l'autre que ça a du sens, parce que tout seul, du coup, ça n'en a aucun. C'est vers l'autre que tout prend du sens. À défaut d'avoir de l'espérance, l'espérance, c'est ce qui concerne le monde, à défaut d'espérance, on peut se nourrir d'espoir. Et moi, j'ai placé tous mes espoirs en l'autre. Voilà.
Normalement, cette question, je la pose en dernière, tout à la fin de mon interview.
Et là, c'est tout au début.
Mais pour une fois, je vais te la poser ici. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui?
Quel conseil je voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui?
Quels conseils au pluriel?
Quels
si
conseils?
Ouais.
Les conseils. C'est d'éviter de dire conseils. C'est le conseil que je vais vous donner, ce serait de faire la part des choses entre ce qu'on vous dit et ce que vous ressentez. Ne pas croire que tout se joue et que tout est joué, que tout a de l'importance. Il faut que ça ait de l'importance pour vous, mais il faut aussi réaliser que ça n'en a pas spécialement davantage. Rien n'est grave, c'est ça que je veux dire. Rien n'est grave. Tomber, ça fait partie de la vie, et même il faut tomber. Donc en fait, comme on disait tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est en sortant de la zone de confort qu'on vit. Je le dis dans une chronique, je dis la vie ça brûle, et si ça brûle pas, c'est que tu vis pas, et je le pense très sincèrement. Donc en fait, on ne vit qu'une fois. Il faut arrêter de penser que bon, le paradis, la réincarnation, machin, c'est très joli, mais on ne vit qu'une fois. Partons de ce principe là parce que si ça n'est pas le cas, on sera niqué. Donc on ne vit qu'une fois, alors profitez de cette expérience assez incroyable, qui est bouleversante, qui fait mal, qui brûle, qui est à la fois réjouissant, qui est doux, qui est tendre. Profitez de ça et bouffez le monde, quoi. Il faut bouffer le monde. C'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est de bouffer le monde, quoi. Voyager, rencontrer, aimer beaucoup, fort, trop. Trompez-vous souvent, le plus possible, et essayez d'apprendre. Voilà. Et puis faites de votre mieux. C'est bien, ça va?
C'est parfait. C'est... Ouais, c'est trop bien. Au-delà de ta passion pour jouer avec les mots, qu'est-ce qui te rend vivant?
Qu'est-ce qui me rend vivant? Ce qui me rend vivant, moi, c'est, j'imagine, de rendre vivants les autres. Ou en tout cas de les maintenir en vie. Ou... au-delà de jouer avec les mots, bah, c'est... Comme tu me demandais tout à l'heure, c'était quoi mon sujet de prédilection? Je disais l'amour, mais c'est... Parce que moi, c'est là que je me suis senti le plus vivant, c'est quand j'arrivais, quand je parvenais à décrocher un rire ou un sourire à la personne que j'aime, quoi. C'est de la tirer vers le haut, de porter avec elle, ou avec lui d'ailleurs, le fardeau qu'est l'existence, quelquefois. C'est la camaraderie, c'est ça qui me rend vivant, moi, c'est la... d'être là. C'est pas grave si ça tremble de mon côté, si moi je peux essayer de faire en sorte que ça tremble un peu moins chez les autres.
Est-ce que t'as d'autres passions à côté de l'écriture et de la parole?
J'ai plein de passions, c'est-à-dire que la vie est passionnante. La vie est passionnante. Après, on a tendance à confondre passion et passe-temps, et c'est très important de pas confondre la passion et le passe-temps. La passion, c'est étymologiquement parlant, ça vient de douleur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, ma passion, c'est le théâtre », alors qu'en fait, c'est un passe-temps pour eux, ils aiment ça. Je pense que ça devient une passion lorsqu'on n'aime plus tellement le théâtre, mais qu'on le fait parce que ça nous est nécessaire. C'est comme, sans doute, toi et les questions, le journalisme, enfin la volonté de rencontrer des artistes, des gens, c'est quelque chose que tu fais malgré ton cursus, malgré ce qu'on t'a proposé. Et je pense que c'est pareil de mon côté pour le théâtre. C'est-à-dire que des passions, j'en ai. Je fais de la musique alors que j'en fais très mal, mais je le fais pour moi parce que ça m'est nécessaire d'avoir des instruments, d'être entouré d'art. Pareil pour la peinture, le dessin, je le fais mal, mais ça m'est nécessaire de pouvoir dessiner. J'aime dessiner les gens que j'aime. Ça me donne comme la sensation de les faire exister. Donc j'ai des passions, et j'ai aussi beaucoup de passe-temps. Et je pense que les gens doivent absolument se nourrir de passe-temps, de passions, sans cesse. Mais se rappeler, ouais. Qu'est-ce qu'est mon passe-temps? Qu'est-ce qu'est ma passion? Et tout livrer à la passion en s'entourant de passe-temps.
Tu n'aimes pas rester dans ta zone de confort? Et on en parlait donc tout à l'heure.
Non. D'ailleurs, je déteste le thé vert.
C'est vrai?
Non, j'adore ça. C'était le mec qui sort de sa zone de confort dans des situations improbables, mais que ça soit toujours très mal sur le tabouret. Non, mais je veux juste tester ma résilience. Pardon.
Alors, à part prendre du thé vert, alors
non,
tu n'aimes pas ça,
comment... J'adore ça.
Comment tu fais pour sortir de ta zone de confort au quotidien? Déjà, est-ce que tu essaies de t'en sortir au quotidien?
Ouais, je fais que ça. Moi, ma zone de confort, c'est le théâtre. C'est là où moi, je me sens le mieux. C'est ce que il me parle le plus. C'est l'endroit où j'ai la sensation d'avoir le plus de choses à raconter et qui se fait entendre le mieux par la scène, par la pièce. Et quand on m'a proposé les chroniques à la radio, par exemple, c'est quelque chose que j'aime pas tant, moi, écrire des chroniques. Ça me passionne pas. Mais je le fais parce que ça me force à écrire des choses qui sont différentes de ce que j'ai l'habitude de faire. Et quand on m'a proposé de revenir régulièrement à la radio, ils m'ont dit d'accord. Comment tu veux appeler ta chaîne de chronique? Tu vois, parce que tu vas en faire plusieurs et on va les mettre dans un dossier. Comment tu veux que ça s'appelle? Et je dis, bon, on va appeler ça l'essai. Ils ont dit, pourquoi l'essai? Je dis, parce que je vais tenter des trucs. Et je vais me sortir de ma zone de confort. Et c'est vraiment tout l'intérêt de mes chroniques. C'est que je vais écrire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais habituellement. Et donc, à chaque chronique, je me dis, OK, comment je peux me réinventer? Comment je peux faire un truc différent? Donc, j'ai fait des lettres. J'ai fait Allez, viens, qui est une sorte de discours où je m'adresse à l'auditeur. J'ai fait un j'accuse, plutôt poétique. Enfin, je me force à sortir, et dernièrement j'ai fait un truc sur un truc d'actualité, alors que c'est pas du tout mon domaine. Donc chaque fois je me tire, et du coup ça risque, parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois ça prête à questionnement. Mais là je suis dans la zone de turbulence, tu sais, tu m'as montré tout à l'heure.
Oui.
La panique, la zone de panique. Et ben là, genre, je traverse la zone de panique parce que ça fait peur, mais en même temps c'est agréable. Donc ouais, je fais que ça, je me force à sortir de ma zone de confort.
Qu'est-ce qui te fait peur?
Énormément de choses, moi je suis un trouillard. Tout. Tout me fait peur.
La vie te fait peur.
Tout me fait peur. La mort me fait peur. L'idée de la mort me fait peur. L'oubli me terrifie. Les femmes me font très peur. D'être regardé me fait peur. D'être aimé me fait peur. De ne pas mériter l'amour qu'on me donne me fait peur. De ne pas être aimé me terrifie aussi. Tout me fait peur, en fait. Je suis un vrai trouillard. Et c'est pas grave, d'ailleurs, d'avoir peur. Parce que c'est lorsqu'on a peur qu'on peut être courageux. Si on n'a pas peur, on peut pas être courageux. Il n'y a aucun mérite à conquérir sans gloire. Aucun mérite à conquérir sans gloire, à vaincre sans péril, on conquit sans gloire. C'est ça la phrase. Et c'est parce que j'ai peur, c'est parce que je suis terrifié que je fais de l'art.
Qu'est-ce qui te fait peur chez les femmes?
C'est les... D'abord, je pense que c'est parce que j'ai grandi avec beaucoup de bouquins de poètes qui ont idéalisé l'idée de la femme et qu'on en fait un idéal à atteindre. C'est-à-dire que on attend de la femme qu'elle nous sauve. Enfin, on attend de la femme plus ouvertement. On attend de son partenaire, de la personne qu'on va aimer, qu'elle nous sauve. Et
petite référence à Fabrice Luchini.
Mais il a tout compris, Fabrice Luchini. Genre le mec qui se permet. Fabrice Luchini, t'as tout compris. Non, mais je pense. Et donc, on attend vraiment de l'autre qu'elle nous sauve, qu'elle soit ce refuge, qu'on arrête d'être bousculé. Et donc, moi, j'ai longtemps attendu. Je suis resté très longtemps célibataire. Je suis resté très longtemps sans histoire parce que j'attendais Juliette. Enfin, j'attendais Roxane. Et c'est un jour une de mes professeurs de théâtre qui m'a dit, mais tu sais, dans Roxane, il y a tellement de femmes que Edmond Rostand a aimées. Et dans Juliette, il y a tellement de femmes que Shakespeare a aimées. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, l'idéal n'était pas spécialement parfait. L'idéal peut être empli de défauts. Et même parfois, ce sont les défauts qui sont les plus charmants. Et là, moi, je suis en train de découvrir ce qu'est l'amour réaliste. Je suis en train de découvrir ce que c'est que d'aimer quelqu'un et de pas savoir si ça va marcher toujours. Et de pas savoir si elle a tout le temps envie de te voir. Et parfois, tu la saoules. Et puis parfois, ça marche pas. Parfois, on a du mal à communiquer. Et en fait, c'est ces moments de vie qui sont ratés, qui sont où on se loupe, machin, qui sont charmants et qui font que l'amour est encore plus beau à mener. Et donc, c'est ça qui me terrifiait et qui me terrifie encore chez la femme, ce sentiment d'amour, parce que j'aime terriblement l'idée de la femme. J'aime l'idée d'avoir un partenaire de vie qui soit à mon côté. Puis la tendresse que ça peut échanger deux personnes qui peuvent s'aimer, qui s'aiment pas forcément, parce que même quand on s'aime pas encore, regarde, on s'aime pas. Mais genre, je trouve ça, je sais pas, il y a je trouve ça beau, les amours. Waouh, c'était flou, mais dans ma tête, c'est clair. Venez dans ma tête un jour, je vous fais une entrée gratuite et puis...
Petit voyage dans la tête de Félix.
Vous ne reviendrez pas vivant.
Tu parles souvent d'amour dans tes chroniques, justement. De tomber amoureux. C'est quoi être amoureux pour toi?
Alors, tout commence en 1800. Qu'est-ce que c'est tomber amoureux? Déjà, moi j'ai cerné une nouvelle différence il n'y a pas longtemps sur tomber amoureux et aimer. Après, il y a des gens qui me diront c'est stupide, c'est bête, c'est adolescent, je sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est la sensation que j'ai. Il y a l'état amoureux et il y a l'action d'aimer. Et souvent, il y a des gens qui tombent amoureux et qui, une fois qu'il faut sortir remettre les manches et se mettre à s'aimer, ils en sont incapables. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des jeunes couples se finissent vers 3-4 mois, parce que c'est au moment où l'état amoureux commence un peu à se dissiper et où il faut maintenant s'aimer, quoi, faire en sorte que l'amour vive. Et à l'inverse, il y a des gens qui parviennent à s'aimer sans forcément être amoureux et qui vivent une très belle histoire d'amour alors qu'ils sont pas spécialement passionnés l'un par l'autre, mais c'est juste ils vivent des bons moments ensemble et ils se font du bien. Voilà, c'est ça. Tomber amoureux, pour moi, c'est quelque chose d'assez simple. Je tombe amoureux mille fois par jour. Je tombe sous le charme 1000 fois par jour. Il suffit parfois de très peu de choses. Un sourire laissé un peu trop longtemps, un regard qui se pose furtivement. Tu marches, tu croises quelqu'un que tu trouves terriblement gracieux dans sa manière de marcher, de rire, de passer. C'est Brassens qui avait chanté Les Passantes en disant à toutes ces femmes qu'on croise dans la rue, qu'on aime et qu'on ne revoit jamais. Mais ouais, donc pour moi, tomber amoureux, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde tombe amoureux 1000 fois. Juste, ce qu'il y a de plus beau encore, c'est d'aimer. Et ça, c'est un vrai challenge. Et ça, c'est une vraie histoire. C'est là où ça devient intéressant. C'est lorsqu'on décide que la personne qu'on a en face, on va l'aimer. C'est un choix. C'est pas un état. C'est pas quelque chose qu'on a malgré nous. Non. On décide qu'on va aimer. Et je trouve ça trop beau. On décide qu'on va vivre une histoire et qu'on va tout faire l'un pour l'autre pour que ça aille, pour que ça marche. Tu t'arrêtes et tu dis, OK, t'es une belle personne. J'aime passer du temps avec toi. Tu me procures quelque chose qui me tire vers le haut, qui me fait me dépasser, qui me fait me sentir une meilleure personne que ce que je ne suis. Et j'ai décidé que toi et moi, on allait faire front, on va faire face au monde. On va se battre contre le néant à deux, le plus possible. Et puis c'est pas grave si on rate, puis c'est pas grave si ça dure pas longtemps, mais toi et moi, on va s'aimer. On va être un duo, on va être complice. On va être... C'est ça, s'aimer. C'est décider que on est tous les deux, l'un pour l'autre. Et puis... on se sépare, mais c'est bien aussi de se séparer. Moi, je trouve ça joli quand les gens comprennent que les histoires d'amour sont finies. Ça n'en retire rien à la force d'une histoire de réaliser qu'elle est terminée. Ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer une vie. Le jour où c'est fini, avoir la beauté et la force de se dire « Hey, on s'est aimé très fort, et c'était super, et maintenant c'est fini. » Mais ça n'en retire rien à la puissance et à tout l'amour que j'ai eu pour toi. C'est juste, c'est terminé, j'ai d'autres choses à vivre, t'as d'autres choses à vivre. Donc voilà... vivons plein de belles histoires d'amour et soyez à la hauteur de vos histoires d'amour. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Soyez à la hauteur de vos histoires d'amour.
Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire?
Tu me dis si je parle trop ou
non,
si...
Non, pas du tout. Mais c'est juste trop beau ce que tu dis. C'est hyper vrai, quoi.
C'est
pour
gentil.
Moi, pour moi, c'est vrai.
D'accord,
c'est
oui. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce connard? Moi, c'est pour la vie.
Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire?
Je pense, là, écrire, moi, je le ressens comme ça, c'est comme une respiration. D'abord, t'inspires, puis t'expires. Et l'inspiration, du coup, bah, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que tu te remplis de choses. Et je pense que je puisse d'inspiration dans les soirées que je passe avec mes potes, à boire des coups, à discuter, à rigoler. Je la puise dans un rendez-vous galant ou un date dans des longues soirées dans le lit à discuter, à rigoler, à faire les cons avec des ombres chinoises, à regarder des films en se caressant et se faisant des papouilles. Je la puise dans la vie, dans tout ce qu'on traverse. Puis beaucoup par l'amour parce que souvent j'ai tendance à être tellement bouleversé par le fait de pouvoir aimer et d'être aimé que genre c'est quelque chose qui moi me prend beaucoup de place dans ma vie, quoi, l'amour. Et donc souvent c'est ça que je raconte et c'est souvent ça qui m'inspire. Et puis pour écrire, du coup, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de silence. Je n'aime pas quand les gens sont là à me regarder par-dessus mon épaule ou me donnent des conseils de phrases. Non, j'ai besoin d'être tout seul et faire souvent j'écris debout sur ma chaise. Je suis debout sur ma chaise comme ça. C'est un type que j'ai pris du Cercle des Poètes Disparus où, tu sais, il dit pour voir le monde différemment, il faut changer d'axe. Et il demande à tous ses élèves de se mettre sur leur chaise de bureau. Et donc, ils se mettent tous sur leur chaise. Et fait, voilà, maintenant, vous voyez le monde différemment. Je trouve ça très con et en même temps trop beau. Et donc, quand je bute sur un truc dans mon texte, je me mets debout sur ma chaise comme un con. Je pense que mes voisins doivent me prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'il fait encore le voisin debout sur son bureau?
Complètement
mais grave. Et le mec, il est... Chérie, le voisin est tout nu sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il fait? Et vraiment, je suis tout nu comme ça en train de faire, mais comment je vais écrire? Allez, viens, et tout. Et ça m'arrive souvent. Et donc, voilà. L'inspiration, tu l'appuies partout, tout ce qui peut te bousculer, tout ce que tu peux vivre. Et puis après, l'expiration, l'écriture, ça te prend comme ça, quoi. Ça, un jour, tu te fais, ok, c'est bon, j'ai l'idée. Et tu craches, tu...
Dans quel état tu te sens quand tu écris? J'ai l'impression que t'es un peu coupé du monde, parce que t'avais oublié notre rendez-vous, par exemple.
Je sais pas, oublié, l'heure est passée vite. Je savais que j'avais rendez-vous avec toi, mais je n'ai pas vu l'heure. Mais c'est-à-dire que c'est très prenant. C'est comme une bulle, quoi. Tu réfléchis, t'es vraiment avec ton texte et tu le vois grandir et t'es ok, faut que je trouve un truc. Et puis tu regardes l'heure, t'es waouh, mais j'ai oublié de manger. Et ça m'arrive mille fois par jour de devoir écrire un truc et puis de faire, attends, il faut que je mange midi là, quelle heure il est? Ah, il est 2h du matin. Et je suis comme un con, 2h du matin, ça fait 10h que j'écris et j'ai rien fait d'autre. Ça m'arrive tout le temps. Voilà. C'est pour ça que je suis aussi mince, parce que parfois je passe des jours à pas manger juste parce que j'écris.
Ça t'arrive d'écrire 10 heures d'affilée?
Ça m'arrive d'écrire beaucoup et de m'endormir, de me réveiller, d'écrire. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Rose et Massimo, que j'ai écrit en environ 3 semaines. Et j'ai écrit H24. Après, elle s'est améliorée avec le temps, bien sûr. Mais le squelette, je l'ai écrit H24. C'est-à-dire vraiment, j'étais dans mon lit, je tapais. Puis quand je tombais de fatigue, je tombais. Et quand je me réveillais, j'avais les mains encore sur le clavier. Je faisais, ok, il faut que je... Puis, pum. Et ça a été comme ça.
Waouh.
Mais après, tu vois, c'est pas tout le temps... aussi intense, parfois ça va vite, parfois ça s'écrit en une heure un texte. Mais ouais, quand t'écris des grosses pièces et que t'es vraiment pris dans ton truc, ça m'arrive, si personne ne m'appelle, si personne ne me sort en frappant chez moi ou quoi, je peux être comme ça et juste oublier qu'il faut faire d'autres trucs, quoi. Après, je suis quelqu'un de très distrait, hein. Parfois j'oublie de respirer, ce qui est assez... Oui, non mais, alors tu rigoles, non mais... C'est... Attends, je te livre quelque chose de super personnel, rigole pas. Mais parfois, vraiment, je suis chez moi et je fais... Putain, je me sens super mal, qu'est-ce qui... Ah oui.
C'est pas vrai.
Si, je te jure. Je veux dire que parfois je suis... Putain, je me sens super... Ah ouais, c'est ça. Parce que je réfléchis trop fort. Je suis en apnée dans ma tête.
C'est vrai ?
Parfois je fais des apnées dans ma tête, ouais. Je rigole pas. Mais ça s'apprend de respirer et tout.
Tu viens de te monter d'un cran.
Tu me regardes de haut par le bas, c'est juste...
Non, pas du tout, j'essaie de comprendre en fait, mais je crois qu'il y a rien à comprendre.
Bah non, c'est juste, tu vois, tu réfléchis, t'es vraiment puté. Tant. Ah oui, ouais. Et c'est tout.
C'est fou comment ça te t'omnibule. Ça, c'est incroyable. T'es passionné en fait.
Partons là-dessus.
Comment tu pourrais définir le bonheur?
Ça, c'est ta question, ça.
Oui.
Ça, c'est une question signée, ça. Comment est-ce que je pourrais définir le bonheur? Je pense que pareil, en fait on est dans une génération qui confond énormément de choses et je pense qu'on confond le plaisir et le bonheur et je pense que c'est pareil, le bonheur est un état, être heureux, alors que le plaisir c'est quelque chose qu'on acquiert, avoir du plaisir. Et les gens pensent qu'en ayant du plaisir ils peuvent atteindre l'état de bonheur, alors que je pense pas spécialement. Je pense qu'on peut être très heureux sans pour autant avoir forcément du plaisir. On est heureux quand on est en lien avec soi, je crois, quand on est d'accord avec ce qu'on fait, quand on est content. C'est ça que parfois je peux avoir du chagrin et être très heureux. Quelque chose arrive de triste. Pourtant, je suis très très heureux dans ma vie. C'est juste que je suis triste. Enfin, j'ai de la peine. Et je trouve ça joli d'avoir de la peine et d'être heureux, puis d'être triste, mais avoir du plaisir. Et je préfère être heureux et avoir de la peine. D'ailleurs, je pense que Victor Hugo a dit. Maintenant, je m'en veux quand je cite. Mais Victor Hugo a dit, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et donc voilà, je pense que je suis souvent mélancolique. Mais je suis souvent heureux, je pense aussi. Le plus possible.
Qu'est-ce que tu voudrais chuchoter à l'oreille du Félix quand il aura 50 ans ?
Quand il aura 50 ans ?
Oui.
Lui dire un truc, moi ?
Oui.
Oh, j'aimerais tellement que celui qui me raconte un truc. Je lui dirais... je pourrais lui dire... Qu'est-ce que je pourrais dire au Félix de 50 ans ? Je sais pas, j'aurais trop envie d'avoir une discussion. Qu'est-ce que je peux dire à un vieil homme ? T'es beau. Je trouvais ça marrant. T'es beau. Et puis je disparais. Genre... Qui c'est qui ? Ce serait trop marrant. Genre... Ou je dirais de rappeler des potes de maintenant. Genre rappelle Romain, rappelle Michael. Ou lui rappeler un souvenir qui est très récent ici, que je connais très bien. En fait, parce qu'à mon avis, quand je vais vieillir, je vais avoir des souvenirs qui auront un peu perdu de leur couleur, ont un peu perdu de leur odeur. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien raconter un souvenir avec toutes les précisions que j'ai encore aujourd'hui, toutes les sensations, les odeurs, pour lui faire revivre une photographie, tu vois. Par exemple, mon premier amour, là, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Et je pense qu'à 50 ans, je m'en rappellerai. J'aurai une idée globale, mais je me rappellerai pas de l'odeur, je me rappellerai pas du toucher. Et j'aimerais bien lui raconter ça. Se raconter à soi-même son premier amour, mais dans 50 ans. Pour qu'il y ait tout. L'heure qu'il était, la couleur des draps, la coiffure, les moments de sourire, les questions que je me posais. Ce genre de trucs, je trouverais ça charmant. J'aime ma réponse.
Waouh, bah t'as mieux. Si tu es fier de ta réponse, c'est ce qu'il faut.
Je suis pas fier, j'aime ma réponse. Une différence entre aimer quelque chose et en être fier.
Oui, 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 c'est vrai. Je choisis pas aussi bien les mots que toi.
Non, oh, pardon, c'est le bâtard. Non, pardon, mais tu ne répètes pas. Quel connard, non, c'est pas du tout ce que je veux dire.
Qu'est-ce qui sauvera le monde ?
Là, qu'est-ce qui va sauver le monde ? C'est la beauté qui sauvera le monde, c'est ça que tu veux que je dise ?
Oui,
c'est Dostoïevski.
Encore une référence.
C'est Dostoïevski, c'est la beauté qui sauvera le monde, c'est l'idiot. J'aime bien le mot idiot maintenant. C'est la beauté qui sauvera le monde et je suis plutôt persuadé de ça. J'aime l'idée. Qu'est-ce qui sauvera le monde? Je pense que c'est la volonté de bien faire, de faire du mieux qu'on puisse. Si tout le monde faisait du mieux qu'il pouvait, ce serait beau. Et la beauté sauvera le monde. Je pense que si les gens étaient tous réceptifs à la beauté, au fait de faire attention, le monde serait sauvé. Il serait même pas besoin d'être sauvé, le monde. Mais la beauté, ça va partout. La beauté, ça va. Jeter un mégot de cigarette dans la rue, c'est pas super beau, c'est pas super classe comme truc. Et si tu disais, baf, vas-y, tu sais quoi, c'est beau d'aller faire 3 mètres pour le mettre dans une poubelle, c'est beau. Pareil pour l'histoire d'amour, bah, c'est fini, j'aime plus mon amoureux, j'aime plus mon copain. Ah, cette personne me fait de l'œil. Bah, c'est pas hyper beau d'aller voir ailleurs sans en avoir parlé auparavant. C'est plus beau d'aller voir son amoureux et de faire, hey, ça va plus. Je ne suis plus heureux. Plus heureuse. Et c'est beau, ouais. Donc, la beauté demande de l'effort, la beauté demande de la rigueur, elle demande parfois de la difficulté, de la patience, mais c'est la beauté qui sauvera le monde.
Est-ce que tu as un mot de la fin ?
Le mot de la fin ?
Oui.
De la fin de l'interview ou la fin du monde ?
La fin de l'interview.
Parce que la fin du monde, ce serait putain. Je trouve ça trop fort. Genre, tu sais, la météorite qui arrive et t'as quelqu'un qui fait putain. Et ça, ce serait trop bien comme fin de monde, tu sais. Vraiment. Le plan rapproché de la tête du mec et regarde, elle fait putain. C'est ça, vraiment. Mais la fin de cette interview, je dirais merci. Merci. C'est toujours cool. Des questions aussi larges, aussi intéressantes. Parce que j'en ai fait beaucoup, moi, quand même, des interviews depuis que j'ai commencé à faire du spectacle. Et c'est pas toujours intéressant et c'est pas toujours curieux. Et je pense que la curiosité se perd et c'est très loin d'être un vilain défaut. Merci de cette curiosité. Puis merci pour l'écoute.
Merci à toi, Félix. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.